Eh bien, mes amis, j'espère que, malgré cette espèce de dispersion, que nous nous sentirons bien unis, et je ne forcerai pas trop ma voix. Si vous entendez mal, vous vous rapprocherez. Je n'ai pas la lèpre, je ne suis pas contagieux pour l'instant. Je vous dis pour l'instant. Nous te bénissons et nous te louons, notre Dieu, notre Père, de pouvoir méditer ta parole dans cette merveilleuse nature et sous ce soleil que tu nous donnes. Nous te bénissons pour cette température et nous te demandons que nous puissions, comme autrefois lorsque tu étais sur la terre, t'écouter en plein air. Tu l'as fait si souvent, donnant tes enseignements sur la montagne, quelquefois où il y avait beaucoup d'herbes, d'autres fois dans des lieux plus arides, d'autres fois encore dans une barque sur le lac, parce que la foule sur le rivage te pressait. Nous sommes donc dans le lieu que tu as choisi pour nous en cette année 87. Pour nous enseigner ta parole par les serviteurs que tu nous as donnés et pour lesquels tu as prié comme tu as prié pour nous, qui recevrions cette parole transmise à ceux que tu nous as envoyés. Que ton esprit soit au milieu de nous, qu'il éclaire notre intelligence, qu'il touche notre conscience et surtout qu'il pénètre nos cœurs et que ce feu qui brûlait dans le buisson d'épines devienne intense au sein de toutes nos épines, car nos vies sont comme des épines, nous le savons bien, mais que le feu brûle et que ta grâce nous pénètre et que nous puissions comprendre que tout ce qui vient de toi est une chose bonne, agréable et parfaite. Et que dans ta grâce, dans ce camp, tu nous formes pour que nous soyons un peuple qui te loue au travers de toutes les circonstances parce qu'il connaît Dieu et connaître Dieu. C'est la seule science et la seule vraie sagesse. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et tu nous dis que la sagesse et l'intelligence, c'est de te connaître et de se retirer du mal. Qu'il en soit ainsi pour nous, par ta parole. En Jésus. Amen. Eh bien, mes bien-aimés, nous sommes dans cette journée du 6 juillet 1987 et nous continuons le thème de notre camp, l'œuvre de la foi, en considérant plus particulièrement l'épître de Jacques. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire vous-même le premier chapitre, peut-être dans la petite brochure là qui est l'édition en français courant de cet épître de Jacques, mais je crois qu'il est quand même utile que nous la relisions ensemble. Parce que lire une fois, c'est bien, mais lire deux fois, c'est mieux. Et lire trois fois, c'est encore mieux. Vous avez vu que l'autre jour, enfin hier, c'est pas si loin, on a chanté même quatre fois le même cantique. Et la quatrième fois, eh bien, ça entrait mieux. Et nos cœurs vibraient en répétant ces mêmes paroles. il faut qu'elle nous pénètre. C'est comme un clou, pour qu'il soit bien fixé, il faut que le marteau soit employé plusieurs fois. Et alors après, les choses tiennent. Mais si on donne qu'un coup, eh bien, ce n'est pas du travail consciencieux. Nous demandons à Dieu d'ouvrir nos cœurs. Jacques, serviteur ou esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Et je voudrais que déjà vous notiez les textes qui vous arrêtent, pour vous, qui vous frappent. Pour l'enregistrement, je pense que, enfin c'est une pensée que le Seigneur m'a donnée, il faut qu'il m'éclaire encore, que c'est plutôt ce soir, avant la rencontre, au début de la rencontre, que nous vous demanderons de dire vous-même ce que vous avez vu. Vous avez comme ça la journée encore pour y penser, n'est-ce pas? Mais que maintenant, je vais vous donner l'exposé de ce premier chapitre, puisque c'est le commencement. Puis après, nous nous laisserons guider par l'Esprit et selon les besoins que nous ressentirons dans nos cœurs. Alors, nous lisons donc. Verset 2. Puis si vous avez des questions, notez-les, des choses que vous n'avez pas bien comprises. Je n'ai pas la prétention de répondre à toutes vos questions, mais si je peux, par un texte, éclairer un autre texte, je serai heureux de le faire. Hein. Nous sommes ici parce que nous nous aimons les uns les autres, et s'aimer les uns les autres, c'est se servir les uns les autres. Et que personne ne pense, mais si je pose cette question, on pensera que je suis ignorant. Qu'est-ce que ça peut faire, ce qu'on pense de vous? Ce qui compte, c'est que Dieu vous éclaire. Puis c'est tout. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet. Darby dit, comme un sujet de parfaite joie. Une autre version dit, comme un sujet de pure joie, parce que toutes les joies ne sont pas pures. Alors, vous comprenez comment on peut traduire cela. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète ou parfaite, totale, pure, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Autrement dit, il faut que la patience soit visible en vous. Comme on l'a dit hier, la grâce, c'est quelque chose qui se voit. La patience aussi, c'est quelque chose qui doit se voir en nous. Si je vous dis, je suis patient, vous croyez que c'est vrai? C'est pas vrai. Il faut que la patience se manifeste. Puis vos enfants, nous avons des enfants, il faut qu'ils connaissent qu'ils ont des parents patients. Et patients, ça ne veut pas dire des parents qui laissent tout passer, mais qui sont caractérisés par la patience. Il faut donc que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, nous savons bien que nous faillissons tous, d'une manière ou d'une autre. Mais quand la parole de Dieu nous est exposée, cette parole nous expose toujours le but. C'est la perfection. Il n'y a rien de moins que la perfection. Et si moi je vous parle d'être parfait, si je vous parle de la perfection, c'est pas parce que je me crois parfait. C'est pas parce que je me crois arrivé, mais je peux pas vous proposer moins que ce que le Seigneur propose. Et ce que le Seigneur nous propose, c'est la perfection. C'est le but. Mais je ne dis pas que j'ai atteint le but. Qu'est-ce que je fais? Je cours vers le but. Mais si vous voulez le prix, il faut que vous ayez comme pensée le but. Et non pas que vous ayez déjà arrêté dans vos cœurs, que vous vous arrêterez à mi-chemin, parce que vous n'aurez pas le prix, comprenez-vous? Alors, le but, c'est toujours la perfection. Et c'est pourquoi nous comprenons que nous sommes exhortés, donc, afin que l'œuvre de Dieu se fasse de telle manière que le Seigneur permette que nous ne faillissions en rien. Verset 5. Alors, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il se décourage, qu'il abandonne, pas du tout, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Vous aurez plusieurs exemples pratiques, n'est-ce pas, où on voit ce que peut être un homme, comme les flots de la mer. Un moment c'est comme ça, un moment c'est comme ça, un moment c'est en haut, un moment c'est en bas. Attention, hein, parce que on va voir notre portrait peut-être. Alors verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Finissez-en de prier. Si vous n'y croyez pas, pourquoi est-ce que vous priez? Pourquoi est-ce que vous demandez si vous pensez que de toute façon il ne vous exaucera pas? C'est une coutume, c'est une habitude de prier. C'est un homme irrésolu. Voyez où est le problème. Inconstant dans toutes ses voies. Demandez-vous, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis après, on passe que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous savez ce que veut dire les prémices, hein? Les premiers fruits de ces créatures. Les prémices de la moisson, c'est les premiers beaux épis, et si les prémices sont beaux, on peut penser que la moisson tout entière sera belle. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que vous voyez, on peut lire la Bible et puis se tromper soi-même tout en lisant la Bible tous les jours et puis avoir de faux raisonnements sur la Bible. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable, voilà une nouvelle image, hein. On a vu l'homme qui ressemble aux vagues de la mer, hein. Voilà maintenant, un homme qui est semblable à celui qui regarde dans un miroir son visage naturel, celui qu'il a de sa naissance, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, donc la loi parfaite, elle doit être comme un miroir, hein. Alors donc, on va se reconnaître, on va voir ce qu'on est en lisant la parole. La parole est un miroir. Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, ou selon une autre version, dans toutes ses entreprises. Si quelqu'un croit être religieux, il y a des religieux parmi nous? J'espère que vous l'êtes. Mais si vous vous croyez religieux, parce que être religieux, c'est pas simplement avoir fait des vœux, avoir un habit, hein. Mais être religieux, c'est prétendre qu'on a une relation avec Dieu. Parce que c'est ça la religion. La religion, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Alors, il peut y en avoir dans le catholicisme, il peut y en avoir dans le protestantisme, dans l'église orthodoxe, des âmes véritablement en relation avec Dieu. C'est pas l'étiquette religieuse qu'ils ont et qui font qu'ils sont religieux. Un être religieux, c'est quelqu'un qui a une relation vivante et personnelle avec le Seigneur. Quelle est aujourd'hui votre relation personnelle avec le Dieu vivant? Vous pensez être religieux, et pourtant, il y en a qui pensent être religieux, mais qui ne tiennent pas leur langue en bride. Vous savez ce que c'est qu'une bride? Mais en trompant son cœur, on peut tromper les autres, mais on peut aussi se tromper soi-même. Eh bien, la religion d'un tel homme, qu'est-ce qu'elle est? Elle est vaine. Elle ne vaut rien. Comme une foi sans œuvre, on le verra, est morte et vaine. Une prédication qui n'est pas vraiment crue, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Notre foi est vaine. Nous avons reçu la grâce en vain. Tout cela ne sauve pas. Alors notez bien, ici, c'est une des seules fois où nous trouvons dans la Bible le mot religieux. La religion, verset 27, pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste. Alors, c'est pas des choses extraordinaires dont tout le monde parlera, hein. À visiter qui? Des veuves et des orphelins dans leurs afflictions est de se préserver des souillures du monde. Alors faites attention, si vous avez introduit le monde sous votre toit, je n'ai pas besoin de vous dire comment, faites attention à ces souillures du monde qui sont même dans, qui ont la possibilité de se manifester dans votre maison et que vos enfants peuvent voir. Puis alors après on s'étonne. Les souillures du monde. Comment est-ce qu'on peut en être préservé dans... Il y a des décisions peut-être que nous avons à prendre. Je ne condamne rien des choses modernes, mais je dis que nous vivons dans un monde où tout est fait pour nous faire tomber. Où on a approché toutes les souillures du monde dans toutes nos demeures et quelquefois même dans toutes les chambres. Alors que le Seigneur nous protège, j'ai entendu un jour un prêtre dire, moi si j'étais au Québec, oh il y a 20 ans qu'il disait ça, je passerais le balai dans toutes ces chambres de ces maisons religieuses et j'enlèverais tous ces crucifix. Il avait du courage parce qu'il ne parlait, j'étais le seul non romain, mais je me disais... C'est pas tellement les crucifix qu'il faudrait enlever. Parce qu'encore les crucifix, hein, ils rappellent la mort de Jésus. L'erreur du crucifix, c'est que Jésus n'est plus sur la croix. Mais il y a été. Alors on disait, parce que c'était après Vatican II, il faut changer tout cela, il faut enlever tous ces crucifix de toutes les chambres. Pour y mettre quoi ? La télévision, ça c'est un beau crucifix. Ça oriente vos pensées. Encore le crucifix, qu'est-ce qu'il me rappelle ? Le sacrifice de Jésus-Christ. J'adore pas le crucifix. Mais vous voyez, on nous a faussés. Alors ne parlez pas contre les crucifix d'abord. C'est pas par là qu'il faut commencer. Ou bien les chapelets, à la poubelle. En poubelle. Ça ne me gêne pas que tu aies ton chapelet. C'est pas par là qu'il faut commencer. Il y a d'autres choses qui devraient aller à la poubelle. Parce qu'encore, le chapelet vous rappelait que vous aviez des moments de prière. Bien sûr que vous ne devez pas prier machinalement. Les plus belles prières que le Seigneur nous a enseignées, on en a fait une pourriture parce que on les répète 36 fois et puis on les donne comme punition ou on les a données comme punition. Alors on vous a écœuré. Je sais très bien qu'on vous a écœuré. Mais c'est pas parce que vous avez été écœuré un jour que vous allez rester écœuré toute la vie. Il y a du gravol dans la parole. N'est-ce pas? Vous pouvez guérir vos écœurements, mais nourrissez-vous d'autres choses. Voilà. On va essayer de lire la Bible d'une façon actuelle. Hein? Alors, je ne sais pas ce qui vous a frappé déjà, mais je pense qu'il y a bien des versets qui vous parlent. Eh bien, je n'ai pas voulu trop me préparer comme ça, je voulais me laisser conduire par le Seigneur. Hein? Voilà un homme... qui s'appelle Jacques. Et puis, comment vous remarquez que c'est pas comme les épîtres de Paul, la salutation est un peu différente. Et puis, les destinataires aussi. Les lettres que Paul a écrites à des églises, il nomme les églises. Ici, il n'y a pas une église nommée. C'est pourquoi on a appelé cette épître une épître catholique. Hein? C'est-à-dire universel, et qui s'adresse, parce que c'est ça le vrai sens du mot catholique, dans le fond on est catholique, dans le vrai sens du mot universel, ça s'adresse à tous les hommes, à l'univers tout entier, mais à tous les croyants. Alors combien y a-t-il d'épîtres catholiques dans le Nouveau Testament? Il y en a sept. L'épître de Jacques, les deux épîtres de Pierre, les trois épîtres de Jean, et puis l'épître de Jude. Je m'excuse, j'ai des petits-enfants. Je ne voudrais pas que vous croyiez que je vous prends pour des petits-enfants, mais quand on apprend à compter à ses petits-enfants, on manie les doigts. Alors voilà, il y a donc sept épîtres qu'on appelle épîtres catholiques, simplement parce qu'elles s'adressent non pas à une église particulière, comme l'église de Rome, ou l'église de Corinthe, ou l'église d'Éphèse. Et puis, il y a d'autres épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales, qui sont écrites par l'apôtre Paul à un individu, comme un berger écrit à l'une de ses brebis. C'est ces épîtres pastorales, les épîtres de Paul à Timothée, et puis à Tite, et puis à Philémon. N'est-ce pas? Alors ça fait combien? Ça fait quatre. Quatre épîtres pastorales. Ça ne vous donne pas grand-chose, mais enfin quand vous entendez quelqu'un vous parler des épîtres pastorales, ben qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement ça. Quand vous entendez parler quelqu'un des épîtres catholiques, ou le pensez à l'église catholique, vous pensez aux sept épîtres du Nouveau Testament qui s'adressent à toute la communauté. Et puis, alors vous avez la connaissance aussi des épîtres qui sont donnés directement à une église. Alors, il s'appelle tout simplement ce Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Alors, on vous demandait, là, vous aurez des discussions à l'infini, qui était ce Jacques? Jacques, eh bien, il y a plusieurs noms dans le Nouveau Testament, plusieurs personnes qui ont porté le nom de Jacques. Il y avait Jacques, le frère de Jean, qui a été appelé à être disciple et qui a été nommé apôtre du Seigneur, et qui était fils de qui? De Zébédée, et sa mère s'appelait Salomé. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, chapitre 4 de Matthieu. Et vous savez que Jacques, lui, est mort martyr. C'est Hérode qui lui a fait trancher la tête. Si Étienne est le premier diacre martyr, dans le chapitre 12 des Actes, vous apprenez que Jacques, le frère de Jean, et qui était si intime aussi avec le Seigneur, a été le premier martyr sous le règne de ce méchant Hérode qui voulait même faire périr qui? L'apôtre Pierre. Mais voilà, le Seigneur a permis que Jacques soit repris vers lui et il a délivré Pierre. Vous voyez que Dieu n'agit pas de la même manière avec tous. Et alors est-ce qu'on doit dire, mais alors c'est que pourquoi Jacques a été repris, puis pourquoi est-ce que Pierre a été laissé? Est-ce que Dieu a manifesté plus de puissance avec Pierre qu'avec Jacques? Mais pas du tout. Il reprend aussi ceux qu'il aime. Elle a du prix aux yeux du Seigneur, la mort de ceux qu'il aime. Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. C'est pas une catastrophe de mourir, de s'en aller vers le Seigneur. J'étais en Colombie-Britannique il y a 10 jours et une jeune femme me disait, mais vous savez, vous devriez nous préparer davantage à ces choses célestes parce que quand on est en face de la mort, on n'est pas prêt. Pourquoi? Mais parce qu'on est tellement attaché aux choses de la terre. On aime bien le Seigneur, mais le Seigneur c'est plutôt une idée. Mais les choses célestes, et pourtant, l'apôtre le dit, si vous avez été ressuscité avec Christ, pensez aux choses qui sont en haut. Attachez-vous aux choses qui sont en haut. Visitez un peu en esprit ces aimables demeures de la maison du Père. Et quand le moment sera venu, que vous soyez jeune ou âgé, vous passerez comme de plein pied sur l'autre rive. Avec le Seigneur, vous n'allez pas vers l'inconnu, mais vous allez vers le Seigneur, qui est le Seigneur de gloire. Loin des luttes, loin des tentations. Et voyez-vous, je ne vous propose pas le suicide. Mais quand je vois tous ces jeunes qui en ont assez de cette vie, qui ont tout connu avant 20 ans, puis qui avant 20 ans, puisque c'est au Québec, qui a le plus de suicides d'adolescents et de jeunes qui n'ont pas 20 ans dans le monde entier, hein, c'est pas parce qu'ils n'ont pas connu toutes ces choses, ils les ont trop connues, et puis ils pensent qu'ils n'ont plus rien à attendre de ce monde, et ils veulent aller dans l'autre, mais comment? Hein, comment? En sautant la vie parce qu'ils veulent quitter, c'est une fuite. Mais nous ne devons pas envisager la mort comme une fuite. Il vaut la peine de vivre. Si je dois vivre, il en vaut la peine. Mais si je dois mourir, catastrophe, cimetière, crématoire, j'ai mes arrangements. Mes arrangements. Pourquoi je ferai mes arrangements quand je ne sais pas où je vais mourir? Faire mes arrangements à Montréal? Puis je serai peut-être dans mes souliers quand je mourrai tout ailleurs. Alors, là où l'arbre tombe, là aussi, il demeurera. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un sépulcre préparé. Préarrangement. Mais moi, je dis, préarrangement pour le Seigneur. Préarrangement pour le Seigneur. Puis, ce n'est pas la mort que j'attends. J'attends Jésus. Et peut-être que nous ne passerons pas par la mort. Parce qu'il y a une génération qui ne passera pas par la mort et qui connaîtra ce moment extraordinaire où tout à coup, pof, la dépouille tombe, et puis nous avons un corps de gloire. Et ça sent les râles de l'agonie, sans la souffrance, sans les piqûres qui soulagent. C'est quelque chose de fantastique. Voilà, mais ces choses devraient nous devenir naturelles. Comprenez-vous? C'est cela notre vie. Christ, notre vie. Si Christ est notre vie, si c'est vrai ce que vous croyez, pensez aux choses qui sont dans vous. Alors vous serez un vrai prêté d'évangélisation. Vous serez plus seulement des gens qui distribuent à tort et à travers des tressés qu'on foule aux pieds. Mais vous deviendrez vous-même un prêté vivant. Et les gens vous questionneront sur la raison de votre espérance. Alors, il y avait donc ce Jacques qui est mort. Le premier des apôtres, alors que Jean, son frère, lui, serait le dernier à mourir, hein, à un âge très avancé, presque au début du premier siècle de l'ère chrétienne. Puis il y avait un autre Jacques, le fils d'Alphée, qui est appelé Jacques le Petit, pour le distinguer de l'autre Jacques le Mineur, comme on l'appelait. Et puis il y avait aussi ce qu'on appelait les frères du Seigneur. Je ne m'en vais pas entrer en bagarre là-dessus pour savoir si c'était vraiment les fils de Marie ou les fils d'un premier mariage que Joseph aurait eu et qui sont appelés les frères du Seigneur, comme le prétendent les catholiques. Mais ce que nous pouvons dire de sûr et de vrai, c'est que le terme frère, dans l'Écriture, ne signifie pas nécessairement frère selon la chair, mais proche, parent. Ça, c'est vrai. Et vous ne pouvez pas contester cela. Lot est appelé par Abraham, qui était son oncle, il est appelé son frère. Je ne prêche pas la virginité perpétuelle de Marie, c'est pas du tout cela. Hein. Mais je dis que c'est des discussions oiseuses, cela, hein. De vouloir dire que Marie a eu tant d'enfants après Jésus, etc. C'est pas cela qui nous intéresse. Qu'elle en ait eu, ça lui a rien enlevé. Et qu'elle n'en ait pas eu, ça ne lui a rien donné. Comprenez-vous? Il faut bien saisir ça. Alors, finissons-en avec nos discussions stériles, parce que vous défendez une certaine position après avoir eu l'autre, mais parce qu'on vous a converti. Or, j'espère bien qu'on ne vous a pas converti, mais que vous vous êtes donné au Seigneur. Et que c'est lui qui a fait son œuvre dans votre cœur. Et qui a mis ses sentiments en vous. Alors, la question pour nous, que Jacques ait été le cousin du Seigneur, ou bien qu'il ait été le frère même du Seigneur, c'est pas cela qui compte, de sorte que nous n'allons pas nous disputer sur l'auteur de cet épître. Jacques avait un frère aussi, qui s'appelait Jude, mais ce que l'on pense, c'est que ce Jacques, et ça, tous sont d'accord, était, qui est appelé le frère du Seigneur aussi ailleurs, eh bien, Jacques était l'évêque de Jérusalem.
le premier responsable de l'église de Jérusalem, celui avec qui l'apôtre Paul a eu affaire dans le livre des Actes. Et c'est ce Jacques qui lui aussi est mort martyr, mais à Jérusalem, plus tard, avant la destruction de Jérusalem, dans les années 60, c'est ce Jacques qui a écrit cet épître, qui avait donc une grande fonction à Jérusalem. Vous le voyez intervenir au concile de Jérusalem, qui était le premier concile, au chapitre 15 du livre des Actes. Alors voilà pour qui est Jacques. Il s'appelle serviteur de Dieu, ou esclave de Dieu. Il ne se nomme pas apôtre, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que ce Jacques, s'il est un des parents du Seigneur, qu'il soit son frère ou son cousin, il est dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Donc, c'est un homme qui, au début, tout en vivant dans la proximité du Seigneur, que ce soit dans la famille de Marie ou dans une famille toute proche, à Nazareth, puisque c'était un clan, eh bien, Jacques, frère du Seigneur, ne croyait pas au Seigneur. Ses frères lui dirent, comme vous avez dans le chapitre 7 de Jean, et ça, c'est vrai, c'était un homme qui n'avait pas cru d'abord à la messianité de Jésus. Verset 3 du chapitre 7, ses frères ou les frères de Jésus lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples te voient aussi et qu'ils voient les œuvres que tu fais. » Et pour bien vous montrer que ce n'est pas cela qui est important, de savoir si tu étais réellement un frère, Jésus dit, « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères, hein, qui sont vraiment mes frères. Ce qui compte, c'est de faire la volonté du Seigneur. C'est cela qui doit vous conduire, même dans vos discussions, sinon vous ne défendez pas la cause du Seigneur par des discussions stériles. Alors, les destinataires, c'est aux 12 tribus. Dans le français courant, les auteurs de la traduction pensaient que les 12 tribus, ça n'intéressait pas le premier lecteur. Alors, ils ont mis « J'adresse mes salutations à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. » Mais littéralement, c'est bien les 12 tribus. Or, vous le savez bien, depuis la dispersion à Babylone, il n'y a, quand on parle des Juifs, combien de tribus ? 2. Il n'y a que 2 tribus. Les descendants là qui sont en Israël font partie de la tribu ou de Juda ou de Benjamin. C'est ça qu'on appelle les Juifs. Mais après le schisme qui eut lieu à cause des péchés de Salomon sous Roboam, eh bien vous savez que Israël, qui était 12 tribus, s'est divisé et 10 tribus sont allées avec Jéroboam, l'ancien ennemi de Salomon, et puis 2 tribus sont restées fidèles à la lignée de David, hein, père de Salomon. Alors, il y a eu le royaume de Juda, qui était Juda et Benjamin, et puis dans le nord, le royaume qu'on a appelé d'Israël, avec comme capitale Samarie. Hein. Samarie était la capitale des 10 tribus, de ce qu'on appelait le royaume du nord, et puis Jérusalem était la capitale des 2 tribus. Et c'est à Jérusalem que se trouvait le temple de Salomon. Mais ce qui est très frappant, c'est que Dieu ne s'est pas laissé son témoignage, même dans le royaume du Nord, où on avait dressé des veaux à Bethel pour illustrer la divinité, et à Dan, mais il a suscité qui pour leur annoncer sa parole ? Les plus grands prophètes étaient parmi le royaume du Nord. Élie et Élisée ont été les témoins de Dieu au milieu de ce peuple infidèle et à demi-païen qui a été emmené en captivité avant le royaume de Juda. Et c'est pourquoi, quand vous lisez l'Ancien Testament, il est toujours dit à Juda, ne fais pas comme Israël, tu as l'exemple de ce qui est arrivé à Israël. Eh bien, il va vous arriver la même chose. Mais les Juifs de Jérusalem disaient, il ne peut rien nous arriver. Pourquoi? Parce que nous avons le temple. Et Jérémie, qui est un prophète à Jérusalem, disait, ne mettez pas votre confiance dans des paroles de mensonges disant, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. C'est pas cela qui va vous garder. Au contraire, parce que vous avez le temple de l'Éternel et qu'à côté du temple, vous avez dressé la grande idole qui excite à la jalousie, comme le dit Ézéchiel chapitre 8, eh bien, vous allez connaître aussi la dispersion et ce temple sera détruit. Et il y avait un exemple. Allez à Silo où était Samuel, où Dieu parlait à Samuel, à Silo autrefois, et il ne reste rien de Silo. Pour quelle raison? Parce qu'à Silo, on a commis des abominations. Les fils du sacrificateur, ils couchaient ouvertement avec les femmes qui venaient pour adorer le Seigneur, devant le petit Samuel qui a pu résister. Et pour quelle raison? Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. Que la grâce du Seigneur nous préserve. Et que nous comprenions que tout ce qui a été écrit, l'a été écrit pour notre instruction. Eh bien, au sujet de ces 12 tribus, je dirais que Élie nous montre quelle est sa foi. Lui, il croit qu'un jour, tout Israël sera rassemblé. Il est pourtant dans les 10 tribus. Mais quand il doit, sur le mont Carmel, un lieu qu'on connaît bien, quand il doit sur ce mont Carmel dresser un autel et demander au peuple d'Israël, des 10 tribus, de choisir entre l'Éternel et Baal, en disant, si c'est Baal, eh bien, courez après lui, si c'est l'Éternel, suivez-le. Mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds, hein? Jusqu'à quand aurez-vous cette marche boiteuse? Il faut prendre position. Il ne faut pas être des gens irrésolus. Il faut savoir prendre position. Ou l'un, ou l'autre. Les tièdes, le Seigneur finit par les vomir de sa bouche. Alors quand il leur dit, si c'est l'Éternel, suivez-le, si c'est Baal, courez après lui, il y a eu un grand silence. Personne n'a parlé. Et qu'est-ce qu'il a fallu? Eh bien, il a fallu que les sacrificateurs de Baal supplient Baal, ô Baal, réponds-nous. Et puis il n'a pas répondu. Et alors Élie, à la fin, après s'être moqué d'eux, leur avoir dit, ben votre Baal, il dort, peut-être, il se repose, ou il est en voyage, qu'est-ce que c'est, puisqu'il ne vous répond pas. Il a dressé 12 pierres, selon les 12 tribus d'Israël. Il aurait pu n'en dresser que 10. Non, il en dresse 12. Il a cette vision qu'un jour Israël sera rassemblé. Et nous, nous croyons aussi ceci, c'est que Dieu n'a pas fini avec Israël. Il y a 2 tribus, en partie, qui sont déjà plus ou moins rassemblés en Israël. Le nom d'Israël est redevenu le nom d'une nation. Ces villes dont on parlait tant dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, reviennent tous les jours dans les journaux, que ce soit Damas, tout ce Moyen-Orient dont il était question autrefois, eh bien, on entend maintenant le nom de ces pays qui redeviennent tout à fait actuel. Et ce que l'on sait, eh bien, c'est que les 10 tribus qui sont dispersées parmi les nations, il y en a qui pensent que c'est les Anglais, peu importe, je ne vais pas entrer dans ces discussions, qui feraient partie des 10 tribus, hein. Bon, un jour le Seigneur les nommera. Un jour le Seigneur les manifestera et il les rassemblera. Alors, quand il est dit que cette épître s'adresse aux 12 tribus, je pense qu'après l'enlèvement de l'Église, parce qu'il y aura des Bibles, il faut en amasser pour ceux qui seront après nous, eh bien, on lira cette épître, et puis ceux des 10 tribus, des tribus d'Israël, reviendra pour établir son règne de justice et de paix. Comme ils passeront par la grande tribulation, comme ils auront toute espèce d'épreuve, eh bien, ça aura pour eux une force extraordinaire, cet épître de Jacques, hein. Et vous comprenez maintenant peut-être pourquoi c'est une parole qui va de l'avant. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, même les tribulations que ces gens devront connaître. Mais c'est vrai aussi pour nous aujourd'hui. que nous devons déjà considérer comme un sujet de joie complète.
Quelques épreuves, des épreuves propres.
Nous voudrions toujours des épreuves propres. Hein. C'est-à-dire, on serait d'accord, mais on voudrait choisir nos épreuves. Ce n'est pas à nous. Les diverses épreuves. Et le mot épreuve, c'est le même en grec que le mot tentation. Épreuve veut dire tentation, ou tentation veut dire épreuve. Dans toute épreuve, il y a un moment de tentation. On pourrait succomber à l'épreuve. Et si vous succombez à l'accablement, eh bien non, ce n'est pas cela que le Seigneur voudrait. Il voudrait que vous sachiez que rien n'arrive sans sa volonté. C'est déjà dit dans les Lamentations de Jérémie. Qui dit une chose et elle arrive si le Seigneur ne l'a pas commandée? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Et vous avez l'exemple de Job, ce père dont j'ai essayé de vous dire juste deux mots hier soir pour vous rappeler un père. Il disait à sa femme, nous avons reçu les biens de la main de Dieu et nous ne recevrions pas les maux. Et au lieu de maudire Dieu parce qu'il avait perdu ses 10 enfants et toute sa fortune, il n'attribue rien à Dieu qui soit inconvenant. Et il n'avait pas le Nouveau Testament pour être instruit. Il n'avait pas même la loi, puisqu'il était au temps des patriarches, et on pense avant Moïse. Mais il avait déjà cette crainte de Dieu. C'était un homme religieux. Il visitait les veuves et les orphelins. Lisez le chapitre 29 de son livre. Il avait tous les caractères qui sont décrits dans le livre de Jacques. Et c'était Job. Alors, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, ou de joie pure, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Mais pour quelle raison? Bien, nous avons lu que Dieu nous formait, et il est en train de nous former. Il nous a formés dans le sein maternel, c'est lui qui nous a créés, nous l'avons vu hier, il nous a formés. Mais une fois qu'on est dehors du sein maternel, c'est fini? On est des hommes faits? Non, on est petit enfant. Et alors bébé, on passera justement ensuite à l'enfance, à l'adolescence, pour devenir des hommes faits et peut-être arriver à la vieillesse, mais une vieillesse où l'on aura acquis une certaine sagesse, où on ne sera pas impossible pour les petits-enfants, mais où les petits-enfants trouveront dans le grand âge un accueil qu'ils n'avaient peut-être pas quand nous étions en plein travail, en pleine activité, nous n'avions peut-être pas assez de temps. Alors un grand-papa, il a peut-être plus de temps, ou un arrière-grand-papa, c'est peut-être encore mieux, n'est-ce pas? Et il peut s'occuper de ses enfants. Et au lieu de lui raconter à son petit des gaudrioles, il peut l'enseigner dans la parole. S'il a fait de la parole aussi sa nourriture quand il était petit. C'est pourquoi nourrissez vos enfants. Et comprenez que pour distinguer ce qui est une épreuve d'une tentation, nous allons le voir tout de suite. Le Seigneur confirme ce qui est dit dans Jacques par l'apôtre Pierre. Je pourrais faire un tableau où on mettrait les versets de Jacques et ceux qui correspondent avec l'apôtre Pierre. Mais j'aimerais faire aussi un tableau où je mettrais les versets de Jacques qui correspondent aux paroles de Paul, puisqu'on a toujours prétendu que Paul et Jacques n'étaient pas d'accord. C'est pas vrai, nous allons le voir. Hein. Paul et Jacques sont parfaitement d'accord. Alors on pourrait mettre les versets de Jacques et ceux qui correspondent dans les épîtres de Paul, les versets de Jacques et ceux qui correspondent dans les épîtres de Pierre, mais aussi, si vous avez déjà lu Jacques, qui vous aura frappé, c'est que le genre littéraire de Jacques ressemble à quel genre que l'on trouve ailleurs? Dans quel sermon? Le sermon sur la montagne. C'est au fond, en plein, l'enseignement de qui? De Jésus. Alors, vous pourriez prendre les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, puis mettre à côté Jacques et tous les versets que vous voyez correspondent avec l'enseignement même de Jésus. Donc, ce Jacques, parent du Seigneur, qu'il soit son frère ou autre, eh bien, a bien enregistré les enseignements de Jésus. Et ce Jésus
Même s'il est son frère, qu'est-ce qu'il l'appelle? Son maître. Car quand on dit qu'on est serviteur de Jésus-Christ, ça veut dire qu'on le reconnaît comme maître. Ce n'est pas les relations de la chair qui comptent. C'est ses relations spirituelles, mes amis. Et comprenez-le bien. Eh bien, ces épreuves, Pierre nous dit qu'elles sont pour combien de temps? Pierre 1, verset 7. Si cela est nécessaire, que vous soyez éprouvés pour un peu de temps. Et elles seront trouvées, tournées à la louange, à la gloire et à l'honneur quand le Seigneur reviendra. Figurez-vous cela? Quand le Seigneur reviendra, on dira, mais Seigneur, je te bénis de m'avoir envoyé ces épreuves. Heureusement que tu m'as assez aimé pour me donner toutes ces épreuves. Mais faut pas attendre ça. Faut le lui dire maintenant, Seigneur, tu vois, je comprends pas. Mais je sais que tu es fidèle et que tu ne peux pas me laisser, que tu ne peux pas m'abandonner. Alors je te loue pour cette épreuve. Parce que je sais que quand je suis dans l'épreuve, tu es tout près de moi. C'est pas possible. Moi, c'est quand apparemment tout va bien, que je n'ai pas d'épreuve, que je me sens en danger. Vous allez dire, ben alors. Hein. Non, mais c'est vrai. Tandis que quand vous êtes dans l'épreuve, dans le creuset, dans la fournaise, vous réalisez que le Seigneur est proche. Il vous garde. Et il mesure l'épreuve, puisqu'il est dit, chapitre 10, verset 13, de la première épître aux Corinthiens, ça c'est Paul, « Aucune épreuve ou aucune tentation, il emploie le mot tentation littéralement, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, c'est-à-dire mesurée. Hein. Parce que si c'était surhumain, vous ne seriez plus là. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il fera aussi l'issue où il vous donnera le moyen d'en sortir. » Alors, ce que vous savez, verset 3, c'est que les épreuves sont nécessaires pour produire la patience. Mais c'est l'épreuve de notre foi. Il est toujours question de la foi, l'épreuve de votre foi. Elle doit produire quelque chose. Ça doit être manifesté. La patience. Il est dit, sachant que le test auquel votre foi est soumise produit l'endurance ou la patience. C'est comme un test. Nous sommes testés. Hein? Et puis, ça doit produire l'endurance ou, ici, la patience. Et cette patience, c'est un caractère du Seigneur. Évidemment, je saute un tas de choses, mais vous direz que j'en dis déjà trop. Et quand il est dit « salut hein, », à ceux qui sont dans la dispersion « salut », ça paraît un peu bizarre, hein, comme ça. Mais c'était la manière grecque de saluer. Hein. Paul ne saluait pas toujours ainsi. Il était hébreu, alors il dit que la grâce est la paix. Tandis que salut, en grec, c'est que la joie soit avec vous. La joie. C'est le symbole de la joie. Et si vous voulez voir une lettre écrite par un Romain, qui employait alors là aussi le langage grec, c'est dans les Actes, au chapitre 23, verset 26, Claude Lysias, qui était gouverneur de Jérusalem au temps de Paul, doit envoyer Paul de nuit à Césarée Maritime et il écrit une lettre. Claude Lysias, très excellent gouverneur, au très excellent gouverneur Félix, salut. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Et puis après, il dit adieu. Voilà la correspondance qui se faisait au temps de ces gouverneurs dans le paganisme. Salut, c'était ça. Tandis que nous, c'est shalom, on souhaite plutôt la paix. Les Romains, les Grecs se souhaitaient plutôt la joie soit avec vous. Hein, joie à vous. C'est ça que veut dire salut. Vous voyez qu'on pourrait s'arrêter sur chaque mot et méditer pendant des heures. Mais ne dites pas, moi j'ai déjà lu cet épître. Bien, vous allez la relire. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais cette patience, il faut qu'elle soit visible. Il faut justement qu'elle nous transforme. Elle œuvre en nous. Mais cette patience, c'est pas moi qui peux la produire. La patience, qu'est-ce qu'on apprend? C'est un fruit de l'esprit. C'est comme la joie aussi. Estimez-le comme un sujet de parfaite joie. C'est seulement la joie de de l'esprit. Joie comme fruit de l'esprit, parce qu'autrement les épreuves ne sont pas un sujet de joie. Pierre le dit, aucune épreuve ne semble pour le présent être un sujet de joie. Et dans l'Épître aux Hébreux, c'est la même chose. Mais non, mais c'est la joie de l'esprit, joie, fruit de l'esprit, manifestation de l'amour qui est versé dans nos cœurs. La patience, c'est aussi un fruit de l'esprit. Laissez l'esprit de Dieu en vous agir et lui vous donnera la patience parce qu'il voudrait que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Puis alors tout d'un coup, vous dites, oui, mais moi, j'ai pas tout ça. Il me manque quelque chose. Moi, je ne sais pas ce qui vous manque. Il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui demandent la sagesse? Pas tellement. Ils demandent un tas d'autres choses. Il leur manque un tas d'autres choses, selon eux. Mais ils ne demandent pas tellement la sagesse. Eh bien, moi, je vais demander la sagesse. Ça vous fait penser à qui, ça? Salomon, hein? Dans sa jeunesse, il a demandé la sagesse. Et est-ce qu'il l'a reçue? Oui, il l'a bien reçue, hein, sans reproche. Tu m'as rien demandé d'autre? Eh bien, je te donne aussi tout ce que tu m'as pas demandé. Parce qu'il a demandé la sagesse. Mais hélas, il suffit pas de demander au début de sa vie. Il faut la demander tous les jours. Parce que celui qui a écrit des paroles très sages, parce que justement l'épître de Jacques est aussi, a aussi le genre littéraire du livre des Proverbes. J'ai parlé du sermon sur la montagne, je vous parle des Proverbes, vous retrouverez bien des choses qui ressemblent aux Proverbes dans l'épître de Jacques. Et puis, vous retrouvez aussi les enseignements de Paul, mais aussi les enseignements de Pierre. Eh bien, Salomon a demandé la sagesse. Et il l'a reçu, car on a un Dieu et qui donne tout simplement. Oh, c'est tellement merveilleux. Et à qui? À certains privilégiés? Comment est-ce que vous lisez votre Bible? À tous. Puis vous savez, si on avait vraiment la sagesse, qu'est-ce qu'on demanderait? Les choses que Dieu voudrait qu'on demande. On demanderait les choses qu'il veut. C'est ça la vraie sagesse. Dieu est sage. Il est seul sage. Alors on a la sagesse. Et cette sagesse nous fait demander directement à Dieu. Il donne à tous simplement sans reproche. Et il est dit, elle lui sera donnée. Mais alors, il y a une condition, verset 6, qu'il la demande avec foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans douter. En croyant. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Et pourquoi est-ce qu'il doute? Pourquoi est-ce qu'on doute quand on demande? Parce qu'on n'est pas sûr qu'on le veut et que c'est la volonté. Ou bien on dit, Seigneur, je voudrais bien que tu me donnes ça, mais je voudrais garder ça. Puis on est des écartelés. On tend la main au Seigneur, on tire, sois le plus fort. Mais moi, je m'enracine là. Je ne veux pas me laisser déraciner. Oui. Il faut peut-être laisser des racines, même si on s'appelle comme moi. Alors, comprenez le bien, il faut savoir faire un choix, il faut demander avec foi. Et alors, demander avec foi, c'est demander les choses qu'il aurait demandées. Prenez la parole, allez avec la parole, nourrissez-vous de la parole, et vous saurez ce que vous devez demander. Vous irez avec une parole. Et c'est ça que je vous disais hier soir. La foi, elle n'est pas une aventure, mais on a une promesse. Et on lui dit, voilà ce que tu as dit, Seigneur. Alors réalise. Réalise-le. Je te demande dans l'humilité. Mais il faut être décidé qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque soit du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Alors vous avez le tableau de l'homme irrésolu. Inconstant dans toutes ses voies. Il est comme les gens devant Élie. Ils ne savent pas s'ils veulent vraiment s'engager ou s'écarter. Il faut être décidé. Dieu veut votre cœur. Mais vous dites, mais si je donne tout mon cœur, qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce qui va me rester? Mais vous aurez tout. Mais en nouveauté de vie. Et alors que le frère de d'humble condition se glorifie de son élévation, ça vous fait penser à qui? Qui a pu se glorifier de son élévation? À Marie, hein? C'est le Magnificat. Elle sent sa faible condition. Puis elle loue le Seigneur parce qu'elle dit, mais c'est extraordinaire. C'est aussi le cantique de qui? Avant Marie? Anne. Eh bien voilà,
et il nous élève, il prend le pauvre de dessus le fumier. Puis alors que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, eh bien, le Seigneur n'est pas contre les riches, mais il ne veut pas que les riches croient que parce qu'ils sont riches, rien ne va leur arriver. J'ai de l'argent. Ouais, tu as de l'argent, puis tu vas mourir. Comment ? C'est comme la fleur de l'herbe, toute ton apparence, toutes tes richesses, tout ce que tu as. C'est cela que le riche doit comprendre. Et quand le riche comprend cela, il est vraiment humble. Et là, il peut se glorifier. Il peut se glorifier de son humiliation quand il a compris cela. Et les grands sages d'Orient qui sont venus apporter leur présent au Seigneur, ils avaient compris cela, qu'ils étaient comme l'herbe qui passe. Et ils ont voulu porter leur présent au Seigneur. Et on a vu les pauvres bergers élevés au pied du Seigneur et les riches abaissés au pied du Seigneur. Alors que ce soit notre condition de riche ou de pauvre, peu importe, nous restons au pied du Seigneur. Et alors, nous serons bénis par le Seigneur. Mais autrement, si nous mettons notre confiance dans les richesses, eh bien tout cela se flétrira et nous serons flétris aussi dans nos entreprises. Quand j'ai dit hier soir que nous devions être à zéro, c'est pas parce que je voudrais que vous soyez déprimés ou vous déprimez, mais c'est pour vous amener à reconnaître qu'en nous-mêmes nous sommes rien et que si nous voulons vraiment être bénis dans toutes nos entreprises, eh bien, il faut que nous laissions toute la place au Seigneur. Et je sais que je suis en contradiction pleine et entière avec tout ce qui vous est enseigné dans la psychologie. Et ça me fait mal de penser qu'il y a tant de jeunes dans nos assemblées qui ne pensent qu'à faire de la psychologie et qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et que dans les instituts bibliques, on met de plus en plus l'accent sur la psychologie. Et ça sera toute une bande de psychologues qui veulent employer les moyens du monde pour faire du bien à des cœurs qui auraient besoin d'être nourris par la parole de Dieu, d'être régénérés par la parole de Dieu. Parce que la psychologie, ça peut vous éloigner très loin du Seigneur avec les meilleures méthodes, soi-disant. Mes amis, c'est à pleurer. Et puis on vous dit, mais regarde, hein, avant ta conversion, tu avais ces dons-là, eh bien tu faisais cela dans le monde, maintenant tu vas employer tout ce que tu employais pour le monde, tu vas l'employer pour Dieu. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Mes amis, c'est dramatique, parce que le Seigneur va pas employer d'abord vos dons naturels, il ne va pas les sublimer, pour que vous puissiez vous servir de cela, puis qu'on dise, ah, vous voyez, hein, quelle éducation il a. Puis si vous alliez dans sa chambre, vous verriez tous les diplômes possibles. Et quand on pense que même dans les milieux spirituels qui croient toute la Bible, on veut donner des diplômes à tort et à travers, des diplômes qui ne valent rien, même devant les universités, parce que je crois aux diplômes universitaires. Mais pas à certains diplômes que l'on distribue pour glorifier quoi ? La chair. Or, la chair, sa place, c'est à la croix. La chair, elle doit être crucifiée. Remettez un crucifix dans votre chambre. Je sais que je me coule. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Si je voyais un crucifix, je me dirais, ben, ils ont compris quelque chose. Parce que c'est là que la chair du seul qui devait être glorifié a été mise en croix. Hein. Mais ça, on l'a oublié. Et alors, Dieu a pu intervenir et toute la puissance de Dieu s'est manifestée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Et c'est par une vie de résurrection après la crucifixion. Mais il faut avoir passé par cette crucifixion. Il faut avoir connu le sens profond du baptême, de cet ensevelissement dont nous aurons peut-être l'occasion de parler dans la mort pour connaître vraiment une vie qui sort de la mort. Comme le grain de blé, s'il reste seul, il demeure seul, mais s'il est jeté en terre, il produira beaucoup de fruits. Alors, vous serez heureux, oui. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Vous voyez, c'est épreuve d'abord, puis tentation. Parce que il y a la tentation d'être découragé. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Et alors là, nous pourrions parler des couronnes. Que le Seigneur a promises à qui? À qui est-ce qu'il a promis les couronnes? À ceux qui l'aiment. Alors cultivez votre amour pour le Seigneur. C'est tout ce qui nous est demandé. Aimons le Seigneur, mais aimons-le d'un cœur pur, c'est-à-dire sans partage de tout notre cœur. Un cœur pur, ça ne veut pas dire un cœur qui ne pense qu'à des belles choses, mais un cœur qui, malgré tout ce qu'il peut penser, aime le Seigneur. Et se juge des pensées qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. C'est cela qui ne tolère pas quelque chose qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Alors que personne, quand il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». N'attribuons pas la tentation à Dieu, car Dieu nous éprouve, comme il a éprouvé Abraham, mais en vue de lui donner quelque chose de meilleur. Mais Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente personne, mais chacun de nous, reconnaissons-le, au lieu d'accuser Dieu, on est tenté quand on est amorcé par notre propre convoitise. Ça vient de l'intérieur, depuis la chute, eh bien, nous avons cette convoitise en nous. Et puis, qu'est-ce qui nourrit la convoitise? Où se trouve-t-elle, la convoitise? Dans le monde. Qu'est-ce qui habite le monde? La convoitise. Hein? Convoitise de la chair. Convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. C'est dans le monde, ça. Mais alors, si vous amenez toutes ces convoitises du monde sous votre toit, bien, évidemment, vous vous placez en face de ce qui peut concevoir la convoitise. Si vous nourrissez vos pensées qui sont déjà par nature mauvaises, au lieu de vous en juger, de vous en dépouiller, eh bien, vous les nourrissez, alors, eh bien, bien sûr, quand on se nourrit trop, qu'est-ce qui arrive? On garde la ligne? Mais non, on engraisse. On grossit. Il n'y a pas de miracle. Ma femme le dit souvent, parce qu'elle pèse ses malades. Elle n'est pas chez elle. Puis ils sont toujours plus gros. Puis elle leur dit, mais je vous avais dit, pas. Oh mais je ne mange rien. Je vous promets que je ne mange rien. Ce qui lui fait dire, tous les gras sont des menteurs. Peut-être qu'il y a des exagères. C'est tous des gens qui ne mangent rien. Mais ils grossissent. Hein? Boulimie. C'est un beau mot, boulimie. Hein? Il y a l'anorexie, puis il y a la boulimie. On a bien décoré ces mots. Hein? Il y a la kleptomanie. Il y a la pyromanie. Puis tout ce que vous voulez. Non, soyons vrais, hein. On sait très bien d'où ça vient. Et alors, on nourrit sa convoitise, puis quand la convoitise influence la volonté tombe, et puis c'est la mort. Alors ne vous y trompez pas, mais toute grâce excellente, et je vous en ai parlé, nous y reviendrons, ce que je désire pour vous tous, c'est cette grâce excellente qui vient d'où? D'en haut, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. C'est lui qui est le Père Saint, Père Juste, mais il est le Père des Lumières, de toutes les lumières que nous voyons. Et il n'y a pas de changement, pas d'ombre de variation. En 87, il peut faire pour vous ce qu'il a fait pour Abraham, ce qu'il a fait pour les autres hommes que nous cite la parole de Dieu. Et, voyez-vous, verset 18, il nous a engendrés. Est-ce que c'est nous qui nous sommes engendrés? Par notre spiritualité? Non, c'est l'œuvre de Dieu, c'est vraiment la nouvelle naissance. Il nous a engendrés. Selon quoi? Selon notre volonté? Selon sa volonté. C'est pas à vous qu'il avait choisi. C'est lui qui vous a choisi. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Quand il vous dit, c'est sa volonté. Le mystère de sa volonté, c'est qu'il vous a aimé. Avant la fondation du monde, il vous a aimé et vous avez été engendrés selon sa volonté. Par quoi? Qu'est-ce qui vous a engendré? Une réunion d'évangélisation seulement? La parole de la vérité. Peut-être entendue dans une réunion d'évangélisation, il faut bien qu'on l'entende. Hein? Mais ce qui nous a engendré, c'est la parole de la vérité, afin que nous soyons une sorte de prémisse de ces créatures. Vous voyez, pas des ratés. Vous pouvez naître sans instruction.
Mais si vous êtes formé par le Seigneur, vous ne serez jamais un raté. Laissez-vous former par le Seigneur. Et tout ce dont vous avez manqué peut-être dans votre jeunesse, il vous le donnera. J'ai vu des gens qui se sont mis à apprendre à lire à 50 ans et qui ont eu un témoignage merveilleux jusqu'à 80 ou 90 ans, qui avaient une culture biblique parce qu'ils ont seulement appris à lire à 50 ans, mais à lire pourquoi ? Pour lire la Bible. Ils avaient faim de la Bible. Et c'était des hommes excellents, des hommes qui avaient une connaissance, qui avaient une sagesse, avec qui on pouvait prier. Et je pleurais souvent quand je les entendais prier. Sachez-le, frère bien-aimé, sachez cela, vous voyez, c'est seulement un verset. Sachez-le, mes frères bien-aimés, soyez sûrs de cela. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, j'ai pas besoin de discuter là-dessus, mais lent à se mettre en colère. Ne dites pas tout de suite, moi, mes colères, c'est des saintes colères. Quand un homme dit ça, on peut dire, on va demander à votre femme si c'est vraiment des saintes colères. Vos saintes colères. Hein? Parce que Jésus avait une sainte colère. Non, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà un verset qui devrait nous rester. La colère, faites bien attention, n'accomplit pas la justice de Dieu. Le mensonge n'accomplit pas la justice de Dieu. Et j'ai entendu des prédicateurs dire, écoutez, il y a des exceptions, on peut mentir dans certaines situations. Vous croyez que c'est vrai? Et on a même cité la Bible. Quoi? Les mensonges des sages-femmes. Dieu leur a bâti des maisons. Eh bien, mentez, 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 puis Dieu vous bâtira des maisons. Hein? Parce qu'il est dit que Dieu a bâti des maisons aux sages-femmes. Qui ont dit au Pharaon que les femmes d'Hébreux étaient plus fortes que les Égyptiennes. Hein? Parce qu'elles ne tuaient pas les enfants. Mais Dieu ne leur a pas bâti des maisons parce qu'elles ont dit un mensonge, mais parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu et qu'elles n'ont pas tué. Comprenez-vous? Mais vivant dans ce siècle-là, vivant dans cette terreur, elles étaient trop faibles, elles s'en sont tirées avec un mensonge, mais ça ne justifie pas le mensonge, comprenez-vous? Et on dit, mais Rahab, la prostituée, elle a aussi menti en disant que les espions s'en étaient allés. Mais ça ne justifie pas le mensonge. Rahab était une païenne. Alors c'était, elle mentait comme elle respirait. Hein. C'était naturel de mentir. Elle disait une blague. Hein. Mais ça ne justifie pas. Et c'est pas parce qu'elle a menti au roi de Jéricho que Dieu a sauvé sa vie. C'est parce qu'elle a eu la crainte de Dieu. Lisez son témoignage. Alors ne sortez pas des versets bibliques pour vous justifier votre vie de médiocrité et de mensonge. Le chrétien, il en a fini avec le mensonge. Même si ça lui coûte cher, il sait que Dieu lui donnera le double quand il est fidèle. Vous avez dépouillé le mensonge. Le mensonge, il vient de qui? Du diable. Il est le père du mensonge. Alors, ne mêlez pas le Seigneur à vos mensonges. Ce n'est pas vrai. Sachez-le. Alors, on va pas se mettre en colère. On va demander au Seigneur de nous dominer parce qu'on n'accomplit pas la justice de Dieu. On y va toujours trop fort. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. Vous savez, ce débordement-là, tout à coup, on se sent, ah non, mais ça va pas, Seigneur, il vaut mieux que je fasse quelques pas dans la nature. Pour que je me calme. Puis on crie au Seigneur. Et le Seigneur nous répond et nous calme. Et recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous pour sauver vos âmes. Vous savez, on vous a prêché la parole dans ce camp. J'espère avec douceur, même si je l'ai fait avec force. Mais j'ai mis la parole dans vos cœurs. Alors, dans la vie quotidienne que vous aurez, souvenez-vous de cette parole. Et à ce moment-là où vous êtes tenté, recevez-la avec douceur. Le Saint-Esprit vous la rappelle. Au lieu de vous aigrir et de tâcher d'oublier cette parole qui sonne dans votre cœur comme une cloche, hein, et ça, vous savez, je l'ai eu au cours de ma vie, ça, quand on a une tentation, tout d'un coup, il y a hop, une cloche qui sonne en votre conscience, une parole qui vous est donnée et qui vous empêche de tomber et de chuter. Le Seigneur est là. Mais il faut que je reçoive avec douceur
la parole qui était plantée en vous. Alors, c'est à nous de planter la parole dans les cœurs. C'est cette parole qui nous a régénérés, c'est cette parole qui peut sauver nos âmes dans l'actualité. Être sauvé, pas seulement pour aller au ciel, mais être sauvé pour ne pas péché, pour ne pas détruire notre témoignage. C'est de ce salut-là que vous avez besoin tous les jours. On a besoin d'un salut actuel. Hein? Et ce salut actuel nous est donné par la parole que l'on reçoit. On ne pique pas dans la Bible un verset, mais on a lu la parole, puis tout à coup on se dit, mais qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que te dit la parole? J'ai le souvenir que la parole dit ceci et cela. Alors, je la reçois et je l'accepte. Mettez la parole en pratique, puisque je la connais. Je veux la mettre en pratique, mais vous direz, mais comment le faire? J'ai pas la force. Mais c'est Dieu qui donne la force. Ne vous bornez pas à l'écouter, ne pensez pas seulement au camp que vous avez eu. Ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Ça suffit pas que vous l'ayez entendu. Si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, elle la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Puis, voilà, vous partirez de ce camp. Vous vous êtes regardé, vous vous êtes peut-être reconnu, vous avez dit oui, c'est tout vrai ce qu'il a dit là, mais puisque vous voulez, je suis ça. Je me suis vu, c'est vrai. Mais on tâche d'oublier, on regarde les autres, puis on se dit je suis pas si pire. Attention, celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, car je ne vais pas vous remettre sous la loi, et nous allons avoir l'occasion de voir ce que c'est que cette loi de la liberté. C'est la parole de notre salut. C'est cela, l'évangile. C'est la loi de la liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Tandis que l'autre sera malheureux dans toutes ses entreprises. Quand vous vous confiez dans vos richesses, et quand je dis richesse, je ne dis pas seulement richesse d'argent, mais richesse naturelle, qualité naturelle, c'est beau d'avoir des qualités naturelles, c'est beau, ça vient de Dieu, remerciez-le, mais ne comptez pas sur cela pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Il vous faut le Saint-Esprit. Si vous aviez tant de qualités naturelles, hein, le Seigneur n'aurait pas envoyé son esprit, c'était de trop. Mais c'est justement parce que cela nous manque et que nos qualités naturelles n'auront jamais la puissance de faire entrer. Ah, mais j'ai des convictions, alors j'essayerai de vous imposer mes convictions, j'essayerai des méthodes pour vous impressionner, pour que la parole de Dieu entre, puis ça entrera combien de temps? Hein? Une petite piqûre sous-cutanée, pas même dans la fesse, dans le muscle. Or, il faut que la parole aille juste dans nos muscles pour que ça change, que ce ne soit pas un court effet. Alors, vous serez heureux dans votre activité, tandis qu'avant, il était dit que toutes vos entreprises se flétriront, et vous serez flétris dans vos entreprises. Mais si vous êtes de l'autre côté, eh bien, vous serez heureux dans votre activité. Et maintenant, si quelqu'un croit être religieux, eh bien, qu'il tienne sa langue en bride. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais en trompant son propre cœur, ben, la religion de cet homme est vaine. Si vous ne savez pas tenir votre langue en bride, Seigneur, donne-moi de pouvoir tenir ma langue en bride. Et puis comprendre. Ben, ça, je l'ai compris. Vous savez, je peux vous le dire. J'avais 17 ans. J'étais sur un lit d'hôpital. Puis une jeune veuve est venue me dire, tu connais bien la parole déjà, tu pourrais pas me donner des textes qui disent quelque chose pour les veuves? C'est une chrétienne, son mari était juif, mais chrétien aussi, je l'avais connu. Puis j'ai mis ce que je savais sur les veuves, j'avais pas de concordance, j'avais pas de Bible avec justement des références. Mais j'ai lu la Bible depuis la première page à la dernière. Puis j'ai trouvé 75 passages, j'en ai loupé quelques-uns, hein, parce qu'il y en a à peu près 90. Mais peu importe. Alors j'ai mis ces versets, puis je lui ai donné. Puis, ça a été en bénédiction pour elle, alors elle a retapé ça, puis elle l'a donné à d'autres. Puis quand le Seigneur m'a rétabli, 2 ans après, miraculeusement, eh bien, un jour que je prêchais, il y avait 11 veuves, ou 15 même, à la sortie, c'est une grande église, qui m'ont dit, vous avez un message pour les veuves, nous sommes tous des veuves. Je dis, mais je n'ai pas de message pour les veuves. Oui, mais vous avez écrit quelque chose. Je dis, mais
J'ai mis simplement des versets. Ne vous pourriez pas nous les donner? Et alors c'est comme ça que j'ai écrit mon premier petit livre. J'avais 18-19 ans. Un message de Dieu aux veuves. Et donc, en 38, c'était en 37 que je l'ai écrit. En 38, on l'a imprimé en 3000 exemplaires. En 55, il n'y en avait plus. Alors on l'a refait en 5000 exemplaires. Puis maintenant, il est redemandé encore. Alors on va le refaire pour celles qui sont vraiment veuves, quoique je crois qu'il y en aura de moins en moins, puisqu'on ne se marie plus. Hein? Oui, mais c'est vrai, hein? Est-ce qu'on peut dire que la maîtresse qui a perdu son amant, qu'elle est veuve? Elle ne le dit pas même. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander que tu nous ramènes à cette simplicité. Nous nous demandons toujours ce que nous pourrions faire. Donne-nous d'être disponibles pour accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et que rien ne vienne de nous, mais que tout vienne de toi. Que ta grâce nous accompagne dans la fin de ce jour, et que pour ce soir, chacun de nous puisse repenser à ce chapitre, et que nous puissions partager ce que tu as à nous dire, ou ce que tu nous as dit, pour la richesse du corps de Christ. Amen.